Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Nous sommes dans notre studio à Chartres et dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie. Et il y a deux semaines, nous avions fait avec Bruno Moisan, agrégé de l'université et docteur en musicologie, une première émission consacrée à une partie de l'œuvre du musicien anglais Edward Elgar et surtout autour du Dream of Gerontius, le songe des Gérontes, œuvre créée en 1900 sur les paroles du John Henry Newman cardinal et qui va être béatifié le 2 mai 2010 dans la cathédrale catholique romaine de Birmingham. Donc notre sujet d'aujourd'hui, cher Bruno Moisan, à qui je souhaite la bienvenue à nouveau dans notre studio.
Bonjour, Félicité.
Donc notre sujet est d'actualité, donc cette musique sur les paroles du cardinal Newman qui s'est converti au catholicisme après avoir été ordonné prêtre.
Oui, en 1845.
Donc, voilà. Donc je vous laisse tout de suite la parole pour continuer sur la musique de Edward Elgar, mise en musique des paroles de ce cardinal Newman.
Voilà. Alors j'avais dit donc dans la précédente émission que Elgar d'un côté et Newman de l'autre présentaient donc, j'allais dire, deux types idéaux du catholicisme anglais du 19e siècle. Donc j'avais donc esquissé le fait que Elgar était issu d'une minorité qui était persécutée, enfin en tout cas qui avait des conditions de vie extrêmement difficiles, qui était victime de discrimination, donc dans la société anglaise du XVIIIe, 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 XVIIIe siècle, et qui avait eu une ascension sociale absolument régulière jusqu'à l'anoblissement jusqu'à devenir le compositeur officiel quasiment de l'Angleterre victorienne et post-victorienne, et puis que d'un autre côté Newman c'était le contraire, c'était l'homme de l'establishment qui devenait marginal évidemment suite à sa conversion au catholicisme. Alors, évidemment, donc Elgar, donc je l'ai dit, vient d'un milieu populaire, de la toute petite bourgeoisie provinciale, et puis, donc, esquissons rapidement d'abord sa carrière, et avant même, j'allais dire, la place, enfin, c'était quoi être catholique anglais au début du 19e? Alors, on a une description terrible, très poétique en même temps, faite par Newman dans un sermon prêché à Oscott le 13 juillet 1852, donc après sa conversion. Et voilà ce qu'il écrit, ou ce qu'il dit plutôt. Dans cette contrée, c'est-à-dire en Angleterre, il n'y avait plus d'église catholique. Il n'y avait plus même de communauté catholique, mais un petit nombre d'adhérents à la vieille religion, passant silencieux et triste, comme un souvenir de ce qui avait été. Les catholiques romains n'étaient pas une secte, un corps, si petit qu'il fût, représentant la vieille communauté du dehors, mais une simple poignée d'individus que l'on pouvait compter comme les pierres et les débris du grand déluge. Ici, c'était une bande de pauvres Irlandais. Là, peut-être, c'était un homme âgé que l'on voyait se promener dans les rues, grave, solitaire, étrange, quoique de noble maintien, dont on disait qu'il était de noble famille et catholique romain. C'était une maison de vieux style, de sombre apparence, enfermée derrière de grands murs, avec une porte de fer, des ifs. On racontait que là vivaient des catholiques romains. Mais qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, ce qu'on voulait dire quand on les appelait catholiques romains, nul n'aurait pu l'expliquer. On savait seulement que ça sonnait mal et parlait de formalisme et de superstition. Donc avec ce langage très poétique, Newman, converti depuis peu au catholicisme romain, rend sensible une réalité sociologique, mais qui façonne les psychologies de cette minorité catholique, devenue très peu nombreuse, aux alentours de 150 000 personnes en Angleterre au début du XIXe siècle. Elle est stigmatisée et elle est surtout exclue de la vie publique. Avant le Catholic Revival de la deuxième moitié du XIXe siècle, les catholiques anglais, dont je l'avais esquissé la dernière fois, se résument, en dehors des Irlandais bien sûr, à quelques familles issues de la grande et de la moyenne noblesse, dont la plus illustre est la maison de Norfolk, et à un certain nombre de familles peu instruites, habitant soit à la campagne, à proximité des domaines des propriétaires terriens, catholiques, qui les emploient, les protègent et leur ouvrent leur chapelle pour le culte, soit en ville, où elles exercent des métiers manuels, artisans, boutiquiers, ce qui est le cas du père d'Elgar. Ces familles sont contraintes à des métiers subalternes et ne peuvent ni progresser, ni s'intégrer à la classe moyenne dans la mesure où l'accès à l'université leur est fermé. Cela en raison du serment anglican exigé de tout candidat aux études supérieures à ce moment-là. Donc malgré la loi d'émancipation de 1829, il n'y aura pas de middle class catholique en Angleterre avant la fin du XIXe siècle. Et il faudra attendre la suppression en 1859 de ce serment discriminatoire pour que d'accès à l'université, si vous voulez, pour que se constitue petit à petit une classe moyenne catholique dont Elgar est, à mon avis, un des plus emblématiques représentants. Alors, la carrière d'Elgar en quelques mots. Donc, il commence évidemment par apprendre la musique. Il n'accède pas aux institutions officielles puisqu'il est catholique. Donc, il apprend la musique dans le magasin de son père. Et il apprend la musique sur le tas en étant organiste de la chapelle catholique de Worcester. Ensuite, après, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il prend la succession de son père en 1885 comme organiste de l'église Saint-Georges, mais enfin, ça n'est pas très nourrissant. Et il va, au départ, gagner sa vie en étant l'arrangeur, le chef d'orchestre et le compositeur d'un band, mais d'un band d'un endroit particulier, d'un asile de fous, qui se situe non loin de Worcester, à Powick. Donc c'est le fameux Powick Asylum, hein, et donc lui dirige le Powick Asylum Band, hein, pour lequel il va composer, j'allais dire, à l'appel, des transcriptions, des arrangements, des œuvres originales, etc. Parallèlement, ce qui lui faisait dire d'ailleurs « When I was at the lunatic asylum », hein, c'est ce que dira le vieil Elgar en repensant à sa jeunesse. Et donc, j'allais dire que ça va lui apprendre le métier. Hein, il va transcrire des valses, tout ce que vous voulez, des airs d'opéra, etc. Il va composer de la musique pour ça. Et donc, il va apprendre le métier comme ça. Et il va aussi apprendre le métier en composant de la musique d'orgue et aussi de la musique chorale, dont je vous propose d'écouter peut-être un tout petit extrait. Hein, ce qui lui fait assimiler toute la technique du contrepoint classique, etc., de l'écriture chorale, à la fois anglaise, mais en même temps européenne, baroque, etc. Voilà, donc je vous propose d'écouter un petit extrait d'un chœur.
Chers auditeurs de Radio Grand-Ciel, nous venons d'écouter ce magnifique O Salutaris Hostia d'Edvard Elgar. Nous parlons avec, ou plutôt c'est Bruno Moisin qui nous présente ce musicien anglais. Si vous voulez écouter Bruno Moisin, vous avez l'occasion à Chartres, l'extrême bonheur de l'écouter à l'École des Arts organisée par le Centre International Vitrail. Cher Bruno, continuez s'il vous plaît à nous parler d'Edvard Elgar.
Alors il s'agit d'un O Salutaris Hostia tout simple. J'ai dit qu'il assimilait le contrepoint, effectivement, sauf que là, on a une œuvre qui n'est absolument pas contrapuntique, on a juste une œuvre chorale simple en homophonie, plutôt pour une chorale, j'allais dire, d'amateur, enfin, pour une liturgie simple. Et j'ai choisi cette œuvre parce qu'elle est tout à fait représentative de cette musique que Elgar composera toute sa vie pour la liturgie catholique, mais j'allais dire avec laquelle, très jeune, il a aussi appris le métier. Alors, donc il succède en 85 à son père comme organiste de l'église Saint-Georges. Il compose, alors premier grand événement en 88, il a quand même déjà plus de 30 ans puisqu'il naît en 1857. Il compose pour la visite de l'archevêque de Birmingham toute la musique liturgique qui correspond. En 1889, il se marie avec Alice Roberts, qui est la fille d'un militaire anglican qui a 9 ans de plus que lui. Enfin, Alice, pas son beau-père. Et ce qui facilite son insertion sociale dans les milieux anglicans. Il s'installe à Londres, s'insère dans les milieux londoniens. Il est notamment proche d'un élève et ami de Liszt, qui est Hans Richter. Et c'est une période de grande maturation chez lui, où il va assimiler la musique allemande de Brahms, de Wagner, de Schumann, qui est d'ailleurs Schumann étant son compositeur préféré. Il assimile aussi le Verdi d'Othello, c'est-à-dire le Verdi qui lui-même assimile la continuité wagnérienne. Il assimile aussi l'opéra français, comme le Prophète de Meyerbeer. Et en 1892, il compose une œuvre qui commence à le rendre célèbre, qui est la fameuse Sérénade pour cordes, opus 20, dont je vous propose d'écouter donc un des mouvements. Il s'agissait du premier mouvement de la Sérénade pour cordes, opus 20 d'Edouard Elgar, et qui nous montre, eh bien, j'allais dire, avec quelle facilité Elgar assimile des styles extérieurs. Et ici, évidemment, me semble-t-il, dans l'immense continent de la musique allemande, évidemment, l'élégance et la suavité de la musique de Mendelssohn, notamment. Alors, il va ensuite, eh bien, recevoir des commandes officielles et un Sursum Corda, opus 11, en 1894, qui est une commande de la cathédrale anglicane de Worcester à l'occasion du passage du duc d'York, qui est le futur George V. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la cathédrale anglicane qui va commander une œuvre à Elgar, bien qu'il soit catholique, parce qu'il est l'enfant du pays et qu'il est le compositeur local qui est connu à Londres. Donc à ce moment-là, on a un phénomène de rebond de la sociabilité catholique sur la sociabilité et les institutions anglicanes. Et évidemment, la présence du futur George V dans cet événement important va contribuer à solidifier la carrière et la position d'Elgar, évidemment à Londres, et notamment dans les milieux de la cour. Il compose des oratorios, The Light of Life, opus 29, qui est une commande du célèbre festival des Trois Chœurs. Il a des commandes officielles, Music for Queen and Country, avec la fameuse Imperial March, The Banner of St. George, et puis évidemment les fameuses Pomp and Circumstance aussi. Un très grand oratorio en 1898, Caractacus, en 1899, les célébrissimes variations Enigma, que nous n'écouterons sans doute pas aujourd'hui, et un chef-d'œuvre magnifique, un ensemble de Lieder avec accompagnement d'orchestre, The Sea Pictures, et en 1900, The Dream of Gerontius. Malgré la création ratée le 3 octobre 1900, comme je l'ai dit la dernière fois, donc un rebond, un succès à Düsseldorf avec un rebond sur l'Angleterre va consacrer définitivement Elgar comme le grand compositeur de l'Angleterre. En 1902, on lui commande l'ode du couronnement d'Édouard VII, opus 44, dont le texte est écrit par le fils de l'archevêque de Canterbury. Donc voyez ici déjà Elgar qui sait très très bien naviguer entre les milieux catholiques et les milieux anglicans, et ensuite une série de consécrations officielles. En 1904, il est fait chevalier. En 1905 et 1908, il est professeur à l'université de Birmingham, lui qui n'est pas allé à l'université. En 1911, il reçoit l'ordre du mérite. En 1928, il est fait Knight Commander of the Royal Victorian Order. Et évidemment, en 1931, Baronet of Broadheath. Il est anobli et il reçoit l'anoblissement héréditaire, qui est évidemment la consécration d'une magnifique carrière, évidemment comme compositeur de l'Angleterre. Donc finalement, en 1900, aux alentours de 1914, si vous voulez, le grand compositeur de l'Empire britannique est un catholique. Voilà. Et je pense que ça mérite d'être souligné parce qu'on a une trajectoire absolument passionnante. Alors évidemment, la trajectoire de Newman, c'est évidemment, j'allais dire, tout le contraire, comme je l'ai dit. C'est l'autre phase du catholicisme anglais, celle des intellectuels anglicans convertis. Alors, quelques dates. Newman naît le 21 janvier 1801 à Londres, c'était le fils d'un banquier ruiné. Il est fait en 1917 undergraduate à Trinity College d'Oxford. En 1822, il est fellow d'Oriel College. En 1824, il est ordonné diacre. En 1826, il est tuteur d'Oriel, ce qui est une position extrêmement importante. En 1828, il est curé de St. Mary's d'Oxford, qui est la paroisse étudiante, où ses sermons sont extrêmement courus. Et en 1832, il termine ce qui est en fait, j'allais dire, une sorte de thèse de doctorat, qui est une étude sur l'arianisme dans le IVe siècle après Jésus-Christ. Et on voit très bien comment, à travers un travail sur les hérésies des premiers temps du christianisme, eh bien, Newman va réfléchir sur son propre rapport d'anglican à l'Église catholique. Et en 1833, il devient le chef de file d'un mouvement très célèbre qu'on appelle le mouvement tractarien, qui est un mouvement de réforme de l'Église anglicane qui, il faut le reconnaître, était très influencé par le scepticisme philosophique et matérialiste et subtilement souriant des déistes anglais du XVIIIe siècle. Et c'est vrai que sous l'influence du renouveau spirituel lié au romantisme, eh bien, un certain nombre de jeunes intellectuels vont penser qu'il est peut-être temps de remettre un petit peu de spiritualité dans tout ça. Et Elgar, évidemment, est le chef de file de ce mouvement, qui est appelé tractarien parce qu'ils vont se faire connaître en publiant des tracts dans la presse et qu'ils distribueront aussi, et qui sont des textes polémiques destinés à secouer l'Église d'Angleterre. En 1841, Newman publie le fameux tract 90 où il dit que les 39 articles de l'Église anglicane ne sont finalement pas contraires à, j'allais dire, l'héritage du catholicisme. Et évidemment, ça le met en difficulté. Alors, il a le bon goût de se retirer. En 1841, il se retire dans un petit ermitage à la campagne, Littlemore. Et en 1843, il résigne sa cure de Sainte-Marie et il abandonne son fellowship en 1845. Et le 9 octobre 1845, il entre dans l'Église catholique. Et après, je résume, il ne va avoir que des ennuis. Tout ce qu'il va entreprendre va échouer. En même temps, il ne sera pas énormément soutenu par l'Église catholique parce qu'il est considéré comme trop libéral. Et c'est à partir de 1864 qu'il commence à être un petit peu, à revenir un petit peu dans le paysage. Alors il dira que dans sa première partie de sa vie, il était mal avec Dieu et bien avec la société. Et la deuxième partie, il était bien avec Dieu mais mal dans la société. Ce qui, d'une certaine manière, si on paraphrasait Sainte Thérèse d'Avila, dit « Écoutez Seigneur, quand on voit comment vous traitez vos amis, on comprend que vous en ayez si peu. » Bon, alors donc il revient dans le paysage d'abord avec « The Dream of Gerontius », dont les qualités poétiques sont reconnues par tout le monde. Ensuite, la fameuse Apologia. Alors, en deux mots, l'Apologia, qu'est-ce que c'est ? Newman est l'objet de propos très acerbes émanant d'un pasteur anglican, enfin, plutôt d'un clergyman anglican, dont le retentissement est tel que Newman éprouve le besoin de se justifier. Et il va publier dans la presse cette fameuse Apologia où il va raconter sa vie et son itinéraire spirituel. Et cet itinéraire spirituel, qui est en même temps un itinéraire d'analyse de sa propre subjectivité, va entrer dans une profonde résonance dans la culture romantique qui est celle du XIXe siècle, qui est en même temps une culture de la subjectivité. Et il va se présenter comme sujet libre qui suit un itinéraire qui est le sien Et évidemment, cette analyse, cette auto-analyse, qui est à la fois une auto-analyse intellectuelle, mais en même temps une auto-analyse émotionnelle, va rentrer en résonance avec peut-être cet élément fondamental de la culture anglaise, qui est le libéralisme. C'est-à-dire que l'Angleterre libérale avait émancipé le catholicisme anglais parce que une discrimination était inconcevable avec le libéralisme philosophique. Les catholiques vont en bénéficier. Les Anglais pensaient que les libéraux anglais, qui n'étaient pas très favorables au catholicisme, pensaient que la loi d'émancipation achèverait de les fusiller. En réalité, c'est le contraire qui s'est passé. Ça a permis justement ce Catholic Revival. Donc il publie cet apologia qui a un retentissement très fort dans les milieux catholiques comme des milieux anglicans. Et ensuite, il revient dans le paysage. En 1877, il est fellow honoraire de Trinity College. En 1879, il est cardinal et il meurt en 1890, et le roi envoie quelqu'un à son enterrement. Et j'allais dire, cet enterrement est considéré comme un événement national, aussi bien du côté anglican que du côté catholique. Voilà. Alors, durant peut-être le peu de temps qui nous reste, je propose finalement de terminer par ce chef-d'œuvre extraordinaire qui est la fin de The Dream of Gerontius. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fin ? Eh bien, c'est tout simple. L'ange gardien dit adieu à l'âme dont elle s'est occupée toute sa vie, ou dont il s'est occupé toute sa vie. Il le laisse aux portes du purgatoire en lui disant « Farewell, adieu, je me suis occupé de toi, et bien maintenant je te laisse aller au purgatoire pour achever ton itinéraire de purification qui te mènera vers la communion avec Dieu définitivement dans l'éternité. » Voilà, je propose d'écouter cette pièce absolument magnifique, extrêmement émouvante.
On va dire au revoir aux éditeurs qui ont donc eu le plaisir d'écouter Bruno Moisan, qui donne également de cours à l'école de Chartres pour les arts. Et je pense que nous allons avoir l'occasion, cher Bruno, de faire d'autres émissions.
Bien sûr.
En 2010, justement, l'année de la béatification du cardinal Newman, où nous allons approfondir, grâce à vous, notre connaissance de la musique anglaise et puis aussi de la poésie de ce cardinal anglican passé au catholicisme. Et justement, nous allons plonger dans le Catholic Revival, ce renouveau du catholicisme en Angleterre, l'Angleterre du 19e siècle. Donc, écoutons cette pièce pour finir notre émission toute en beauté musicale. Chers auditeurs, au revoir. Cher Bruno, merci beaucoup.
Merci beaucoup.